prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Hey, ta dernière découverte artistique date de 2003.
Aïe, tant que ça change.
Moi, c'est Morin.
Clopergaille.
On est porte-parole du 21e festival Vue sur la relève.
Découvre avant tout le monde les grands noms de demain.
Une programmation originale et audacieuse qui reflète les tendances de l'heure en art de la scène.
Du 5 au 16 avril, lâche ton ordinateur et viens voir des shows.
$12 pour 2 à 4 spectacles par soir.
Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québécois.
Visite vuesurlarelève.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Je me présente votre animateur, Simon Pratt, et je suis en compagnie du très aqueux Olivier Bigonès.
Bonsoir, Simon.
Bonsoir, bonsoir. Ben, c'est parce que ça fit avec mon sujet, peut-être oui. Moins avec le tien, mais ça fit avec le mien. Hein? On va y revenir. Mm-hmm. On a encore un gros show cette semaine. Moi, j'ai eu des mauvaises nouvelles cette semaine. Toi, comment ça s'est passé ta semaine?
Ça s'est bien passé, oui.
Moi, j'ai attrapé un cancer. Non, ben non.
C'est pas drôle.
Ben, c'est tout si pire. J'ai brisé mon ordinateur.
Ah oui, oui, ouais.
Oh, je capotais. fait que je me suis trouvé une chronique un peu... c'est semi-improvisé, en fait. C'est quand même un sujet que je connais très bien, mais j'ai pas fait de recherche tant que ça. J'ai pas vraiment fait de chronique comme telle, comme d'habitude. On va y revenir. Parce que j'avais rien pour travailler chez nous. Maudite merde, j'ai... En tout cas, là, il est réparé. Je suis bien content. Je suis juste tanné de tout briser mes affaires tout le temps. Il me semble que je fais attention à mes affaires. J'ai dit, je connais du monde, mais ils pètent tout. Ils pètent jamais rien, mais ils pitchent tout dans les murs. Rien qui brise jamais. Pas. Moi, j'en prends soin, puis tout pète dans mes mains. Je sais pas pourquoi. Maudite vie de merde. Ben non, une belle vie de cinéphile. Sur ce, Olivier, aujourd'hui, t'as un sujet pas évident. Hein?
Oh, boy.
Moi, je veux savoir, avant qu'on sache dans quoi on s'embarque, là.
Ouais.
Pourquoi tu avais le goût de parler de ce film-là?
Parce que, tu sais, les films, encore une fois, qu'on voit quand on était petit, c'est arrivé souvent, là, ici, là, on va dire, à un moment donné, c'était Force occulte.
Ouais.
Il y en a eu multiples. Tu sais, que tu vois quand t'es tout petit, puis tu dis, hey, faudrait que j'en parle. Tu sais, quand c'est un film que t'as vu très jeune, j'ai la VHS à quelque part cachée dans les boîtes chez nous. Puis ça fait longtemps là, que j'ai vu ça. Puis je me suis dit, oh, why not? Tu sais, comme, pourquoi j'en parlerais pas? J'avais oublié. Ou à cet âge-là, j'avais pas de conscience ou je sais pas. J'ai misère. C'est un des pires films que j'ai vu de toute ma vie.
Wow!
Ouais.
OK.
Ouais.
Moi, c'est un film que je n'ai pas encore vu.
Oh boy.
Tu me donnes vraiment pas le goût de le voir. Mais là, on va le découvrir un peu plus. On va se lancer ensemble. Est-ce que tu es prêt à te lancer dans la chronique aujourd'hui?
Oui.
Parce que là, on va commencer comme ça. Hein?
Ouais.
Là, je trouvais que c'était répétitif aussi. Puis des fois, on manque de temps pour un, pour l'autre. Fait que là, on va s'adapter. On va essayer une nouvelle façon de procéder. Chaque semaine, on va alterner. Une semaine, je vais commencer avec la première chronique. La semaine suivante, ce sera Olivier. Okay. Puis on va alterner comme ça. Question de diversité aussi, puis de, tu sais, de pas... C'est plate aussi quand on débute l'émission, puis moi, je parle pendant une demi-heure, Olivier s'endort, puis après, c'est à son tour, puis genre, faut que je le réveille sur sa chaise. Fait que là, on va alterner, tu sais, comme ça, il va s'endormir juste une fois sur deux. Sur ça, ben, on va se lancer dans ton film, on va mettre le soundtrack, hein, on va se mettre dans l'ambiance un petit peu.
Donc oui.
Pour... Hey, même la toune est plate.
Eh hey boy. Donc aujourd'hui, et hey, puis je t'enthousiaste au bout, hein.
Ben comme la toune là.
Je vous parle. Oh. The Frozen Scream 1975. OK?
C'est que la toune, c'est quoi ça? C'est hey, aucune inspiration.
Ah, oh, misère. OK. Je me sens comme quand j'avais fait Trick or Treat. Tu te souviens de ça, alors? Je me sens de même, mais pire.
Bonne chance.
Oui. C'est quoi Frozen Scream? Donc, film américain réalisé par Frank Roach, sans dire long. Donc, oui, il est super connu. Il a fait Nomad Riders en 84. Hein, tout le monde a vu ça.
Non.
Puis, ben, c'est normal, Simon, parce que c'est le seul autre film qu'il a fait dans sa vie, puis il doit avoir trois personnes qui ont voté pour, genre, sur IMDb.
Donc, sa mère.
Oui. écrit par René Harmon, qui a également produit cette merde-là, et scénarisé par Doug Farrin, Michael Sony et Celeste Ammon. Ça, là, c'est probablement toutes des pseudonymes que Frank, pour pas se sentir trop responsable de cette bouse-là, qu'a inventé. Personne, il n'existe pas, eux autres, OK? Donc, je suis convaincu qu'il n'y en a aucun qui existe. Donc, c'est très court, hein? C'est tout ce que j'ai à dire sur le réalisateur.
Really?
Et il n'y a rien. Rien du tout à dire.
OK.
Donc, le cast, encore une fois, rapidement, on a René Harmon, qui dans le rôle de Dr. Lil Stanhope, qui a entre autres joué dans The Executioner, Part 2, on le précise, en 84. Hell's okay. Rider, 84, l'autre film de Frank que personne n'a vu. Night of Terror, en 1986, c'est un... méchant gros bloc de cheese. Sinon, on a Lynn Kukol dans le rôle de Anne Gerard, qui a joué dans Nomad Riders, elle aussi, hein, en 84, et c'était son seul autre film. On a Wolf Mother dans le rôle de Tom Girard, qui a, lui, a eu une filmographie quand même. C'est encore drôle, ça m'a surpris. Il a joué dans Kiss Me Goodbye en 82, To Be or Not To Be en 83, et bien entendu, Santa Barbara en 84, la télésérie.
Santa Barbara, ouais. Tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre.
Okay, quoi, il a toffé une saison. Donc, il s'appelait Ridge ou quelque chose comme ça.
Ridge,
sinon, on a Thomas Gowen dans le rôle de Kevin Maguire, qui a joué dans Die Hard Dracula en 98,
okay.
Speak of the Devil en 91. On a Wayne Liebman dans le rôle de Father O'Brien, qui a joué dans rien d'autre. Lee James dans le rôle de Sven Johnson, qui a joué dans The Female Bunch en 71, Cassandra en 87. Et Sonny Bartolome dans le rôle de Catherine, qui a joué dans rien d'autre. Moi, c'est drôle, parce que quand j'ai écouté le film, j'étais sûr qu'elle avait fait de la porn, mais non, elle s'est même pas rendue là. Donc, synopsis, essayez de me suivre, s'il vous plaît, ce sera pas facile. OK? Donc, le film commence après une introduction psychédélique, qui essaye des psychédéliques, là, d'une femme avec un voile dans le vent. Nous avons une narration où on ne comprend rien, qui voudrait vraiment vivre pour l'éternité. Puis après, c'est suivi d'un... Puis là, ça coupe. On comprend rien. Donc, tout de suite après, ça coupe. C'est suivi d'un homme en Audi massacrant un jeune couple en train de se baigner durant la nuit, faire un petit skinny dip. Ça coupe. C'est fini. Ensuite de ça, nous sommes avec la ravissante... voyons, hey, j'ai déjà oublié son nom, Anne. finalement, voyons, hey, je te dis, je vous le dis, je suis déficit d'attention, ce film-là. La ravissante Anne qui appelle son conjoint Thomas pour lui dire qu'elle va arriver en retard ce soir à cause du brouillard sur la route, mais il n'y en a pas. OK?
OK.
Il n'y a pas de brouillard. Ça n'a pas rapport. Donc, une fois l'appel terminé, Thomas tente d'appeler le révérend O'Brien, mais sans réponse. Oh, pourquoi? Il va laisser un message comme quoi qu'il doit être rappelé le plus rapidement possible. Là, c'est une question de vie ou de mort. Tu dis, pourquoi tu n'appelles pas la police à la place? Quelques secondes plus tard, le téléphone sonne et au bout du fil, il y a un homme au rire diabolique. Mais c'est vraiment plus un rire diabolique de show pour... de jeunes enfants, là, c'est comique. tu peux pas ne pas rire. Okay. Qui lui dit qu'il est déjà trop tard et le reste de la conversation est à n'y rien comprendre. On comprend rien vu la qualité auditive de marde. Donc,
ouais, le son, il a pas l'air très bon. Le Sandman, il avait pas l'air très très fortiche. Hein?
C'est pire que ça, Simon. Ah ouais. Ok, je te le dis, juste pour mettre ça encore plus tough à comprendre. Thomas va être soudainement surpris par deux hommes en hoodie aux allures vraiment là, de gay porn des années 70 avec la porn stache. Là. donc, très 70, vont lui enfoncer une seringue dans le bras, le tuant sur le champ, puis il crie au meurtre, puis t'es comme, tu te fais piquer mon homme, là. That's it, c'est juste ça.
OK.
Donc, ouais, c'est intense, il crie, il hurle. Donc, en un clin d'œil, Anne est de retour à la maison, ben, coudonc, tu sais, elle s'est téléportée là-bas, là, d'un coup sec, puis elle vient de raccrocher avec elle, puis je vais arriver en retard, il y a du brouillard.
Non, mais le bordel, ouais, cette histoire-là.
Donc, Anne va se mettre à hurler, ta voix pas, tu fais juste entendre qu'elle arrive, puis qu'elle crie, va tomber dans les pommes, donc elle va ensuite se réveiller à l'hôpital où le docteur Stanhope, une amie de la famille, donc est là pour la réconforter avec son accent allemand de merde et sa coupe de cheveux de bullshit, genre je te jure, ses cheveux m'enrageaient.
Ses cheveux m'enrageaient.
Ouais, je te le dis, c'est une perruque qui change, qui bouge, tu sais, d'une prise à l'autre.
Ok, ouais, ok.
Donc, soudainement, va surgir l'ex-petite amie d'Anne, qui est le détective Kevin Maguire, qui est sur l'affaire du meurtre de Thomas, son ancien conjoint, finalement. Quelle coïncidence! Donc, le pauvre Thomas est mort, OK? Et le détective est déjà à flirter avec Anne, lui rappelant leurs belles années. Tu sais, il donne pas une seconde. Donc, mais le docteur Stanford cache quelque chose. Donc, elle est affiliée avec Sven Johnson, un espèce de médecin, on présume. Donc, il fait des expériences dans son laboratoire de sous-sol au mur en papier d'aluminium.
Ah oui!
Oui, de toute beauté.
Pis la belle tapisserie.
Ils n'ont même pas eu assez de budget pour se rendre jusqu'en haut du mur. Fait que tu vois le plaqué bois. Oh, oui, oui. Oh. Tout croche. donc,
nice.
N'importe quoi. Donc, bon, affiliée, elle est non seulement affiliée avec lui, mais elle couche avec lui.
Évidemment.
Et c'est se demander vraiment pourquoi. Même elle se pose la question pendant le film, elle regarde la caméra, puis elle se mange, je me demande pourquoi je couche avec toi. Puis,
donc, OK, elle lui dit en plus.
Ah ouais, sometimes. La façon qu'elle dit. Mon Dieu. Donc, Dr. Sven et le Dr. Senob croient à l'immortalité.
Évidemment.
Donc, bien entendu, ils tuent et kidnappent. C'est pas eux qui font ça, mais comme kidnappent des gens avec leur petit chien de garde en hoodie. Là. Donc, pour les tuer, les kidnapper, pour ensuite les transformer en espèces de zombies. Mais là, c'est toute l'originalité du film. Ce sont des zombies congelés.
Donc, je tiens juste à dire que ça fait à peu près 10 fois que tu fais des guillemets radiophoniques sans le dire.
Ah, oh, écoute, je te le dis.
Il commence à avoir mal aux doigts. Là.
C'est terrible. Donc, des zombies congelés, hein, en toge armés de seringues et de haches.
Okay.
Donc, entre-temps, Anne reçoit des appels téléphoniques de Thomas de l'au-delà, lui disant qu'il a froid, que son corps est froid, donc bref, elle capote. Elle capote, personne la croit, bien entendu. Donc, jusqu'à ce qu'on essaie de la tuer. Et, bref, on se pose là, OK, je coupe ça sec. Donc, bref, est-ce que le Dr. Sven et Stanhope sont en train de monter une armée de zombies congelés? Donc, est-ce que Anne va s'en sortir vivante, bien entendu? Et continuer de coucher avec son ancienne flamme, Kevin? Donc, vous voulez pas le savoir, honnêtement, là, on s'en fout. Ne regardez pas ce film-là. Mais je continue.
À ce point-là, ça va.
Non.
Là, j'ai dû partager sur le blog pour rien, là.
Oh, partagez-le, je vous dare à un moment donné.
Défi, c'est ça, c'est un défi. C'est un défi de le taper ou de le taper au complet.
C'est un méchant défi. Donc, par où commencer, hein, avec cette tragédie-là, donc misère. Pour les intéressés, OK, Frozen Scream est sorti en 1975 aux États-Unis. Fait intéressant, le seul fait intéressant, c'est qu'il a fait rapidement la liste des vidéos nasties.
Bam!
Avant d'y être retiré. Donc, seulement pour vous montrer...
Mais pourquoi?
À quel point le film était tellement poche qu'il a même pas pu rester dans la liste, là. Ah, on s'est trompé. On va l'enlever. Je te le dis, Simon. T'es tellement poche que t'as même pas pu rester dans la liste des vidéos nasty, genre.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi à la base il avait été mis là?
Prosecution. Ouais. Puis ils l'ont retiré, mais en toute honnêteté, ils ont souvent fait comme, ah, ben, c'est vrai, finalement, comme...
Il y a une poursuite, mais ça n'a pas conclu. C'était pas concluant.
Non, puis c'est assez comprenable. Donc, sinon, un autre petit fait intéressant, on a pu le voir, mais du moins quelques scènes dans le fameux Terror on Tapes en 1983.
Ah ouais,
okay. Donc, ce film-là, c'est le comble du mauvais film. Donc, et je le dis vraiment, et j'assume ce que je dis, il se tient vraiment bien droit à côté de Manus, The End of Fate. Et je le dis avec conviction. Donc, je crois que c'est un des pires films que j'ai vu toute ma vie. Pourquoi? OK, on va commencer. On va décortiquer ça.
On va recommencer.
OK.
Ah ouais, vas-y.
Donc, on va commencer par l'audio, qui est une des pires que j'ai jamais entendue. Donc, en passant...
On va mettre le soundtrack.
Oui. La narration du détective Maguire qui pop toujours out of nowhere pendant que nos soi-disant acteurs sont en train d'avoir une conversation.
OK, par-dessus?
Par-dessus. Donc, ils ont okay. même pas fini, puis c'était... On suppose que c'est important ce qu'ils disent. Donc, bref, on comprend rien des deux dialogues en même temps. OK? On ne comprend rien. Donc, aussi parlant d'audio, le film est truffé d'effets sonores de terreur des années 70.
Ah ouais?
Donc, c'est quoi des bruits des années 70? C'est ça.
On les remet.
Oui.
J'avoue que c'est... J'aime ça, mais c'est vrai que c'est stress 70.
Okay. J'aime ça, des petits bruits des années 70. Donc, puis là, je vous le dis, encore une fois, en toute honnêteté, c'est le seul point positif du film que vous venez d'entendre.
c'est le seul point positif,
parce que moi, pendant que je regardais ça, okay, je m'amusais, si on veut, à les imiter. Il y en a beaucoup dans le film, fait que oui, c'est mon petit fun, seul fun que j'ai eu.
Bon, bon, donc tu nous suggères surtout d'acheter le soundtrack.
Bonne chance. Bonne
chance. Je pense pas que ça soit été dit.
Hey boy.
Qui va acheter ça?
Personne.
C'est pour.
Donc, le doublage, OK, est un des pires jamais entendus aussi, OK?
Ouais, ça, j'ai. Ouais.
T'as eu un petit extrait tout à l'heure.
J'ai vu un extrait, puis je l'ai remarqué tout de suite.
C'est assez flagrant tout de suite. Donc, on a l'impression vraiment qu'aucun des acteurs ne porte leur vraie voix, OK? Ce que je disais par là, c'est que c'était du doublage de quelqu'un d'autre, qui ont trouvé...
Ben, j'ai l'impression, justement, que ça a l'air d'un type de film, justement, comme classique, là, des nouveaux réalisateurs qui connaissent pas trop. Ils se lancent... Le son, c'est pas grave. Il y a un micro, c'est la caméra, là. Puis après ça, ils arrivent en studio, puis ils font comme... Ah, on peut pas utiliser le son, mais là, les acteurs veulent plus travailler pour nous autres. Ça comprend n'importe qui.
Vous allez voir, c'est pas leur voix. C'est n'importe quoi. Donc, l'acting...
Quel acting?
C'est ça que j'écris. Donc, donc selon moi, OK, tout le monde dans le film sont des frozen zombies tant qu'à moi, OK? Ils n'ont aucune émotion, aucun talent d'acteur. Donc, ils regardent une caméra, c'est très constipé, je dis ma ligne. Donc, on va commencer avec l'acting avec le Dr. Stanhope. OK, et sa perruque, OK, j'y reviens, OK. Sa perruque, ça a l'air d'un roadkill, OK, bullshit hair, je te le dis. Puis son accent de marde, OK, elle lit son texte littéralement. Elle lit son texte pancarte sûrement. Elle a un genre de faux accent allemand. Elle parle comme Udo Kier, qui, lui au moins, ça sort bien, tu sais, comme... Virgin. Tu dis ça comme ça. Il y a vraiment l'accent. Lui, ça passe. Elle, t'es comme non. Non, ça passe pas. T'as juste l'air folle, merde. Écoute, en toute honnêteté, OK, elle poche, là, OK, mais comme tous les autres acteurs. Et moi, j'ai pour mon dire, OK, que le mot d'ordre dans ce film-là, pour tous les acteurs, est de lire leur texte comme une voix de GPS. OK, on jurait que c'est un GPS. Ils ont écrit des phrases, puis c'est un robot qui parle. Donc, bref, elle est tellement convaincante, OK, donc, qu'elle donne un cours d'immortalité. Un cours sur l'immortalité.
What the fuck
dans une université, OK, où elle évoque le dieu Thanatos, le dieu de la mort grec.
Attends. Fait que là, moi, j'imagine vraiment les étudiants qui disent ouais, écoute, t'as eu ta cédule de cours, là. Oui, j'ai mon cours de yoga, j'ai mon cours d'espagnol, philosophie, puis mon cours d'éternité.
Oui. Elle parle de l'immortalité. Tu sais, j'oublie de vous dire, ils sont dans un genre de culte là-bas, là. Love is immortality. Love is immortality. Je te le dis, autour d'un feu sur le bord de la plage, bien entendu, avec des petits hippies. Rien de convaincant. Tu peux pas ne pas rire quand tu l'écoutes parler du dieu Thanatos. Comment l'homme est un être qui est une machine qui doit être réparée.
What? Ça veut dire quoi, ça?
Non, ben justement, rien. Tu sais, fait que... Donc, est toujours plus crédible, que Anne, notre héroïne censée être la chick du film. À un moment donné, écoute, elle sauve d'un frozen zombie pour, bien entendu, aller se cacher. Finalement, dans un immeuble qu'on présume, je sais pas, un immeuble de clinique, là. Donc, c'est là qu'on remarque la magnifique réalisation, donc, elle ouvre une porte... blanche dans un sens et de l'autre plan de vue, elle referme du mauvais côté et tiens donc, la porte est brune. OK? C'est comme si elle ouvre deux fois puis elle ferme la porte du même bord. Ça fait pas de sens.
OK.
Elle rentre, la porte, tu vois, elle rouvre, c'est blanc, elle la referme, ben, elle est brune. Puis tu sais, les genres, il y en a sûrement une ici, là-haut, les genres de trucs que tu mets en haut de la porte, là, pour que la porte ferme tranquillement, là.
Ouais,
je sais pas si c'est une nouvelle technologie. Une commandite pour la fin. Montez notre spring, puis on va vous payer, je sais pas, 75$.
Pour vrai?
Écoute, puis là, il filme le spring, puis elle, au lieu de fermer la porte, elle attend. Ah, là, je peux pousser la porte parce que tout le... OK, le spring a fermé la porte.
Hein?
Oui.
Il est où l'intérêt, là?
Ben, aucun. Donc, là, ensuite, elle va aller se cacher au meilleur endroit possible. Hein? Tu sais, il y a tout le temps dans les films d'horreur, ah non, elle va pas retourner dans la maison. Elle est encore plus conne que ça. Donc, elle va aller se cacher en dessous d'un escalier, tu sais, d'une cage d'escalier avec tu vois tout à travers, pour être la plus voyante possible. Un bout là. T'sais, au lieu d'être un petit bonhomme, et bien sûr, elle se fait pogner.
Tiens donc. Ah, mais la coquine, c'est peut-être ce qu'elle voulait, dans le fond.
Ah non, écoute, c'est n'importe quoi. Donc, une autre belle prise de vue, le détective McGuire, full nerveux, qui s'allume et une cigarette, et l'écrase rapidement parce qu'un appel téléphonique dans... puis c'est comme, j'allume ma cigarette, je l'écrase, j'ai un appel, je m'en vais, ça dure 3 secondes. Et on remarque que le cendrier, il est plein de cigarettes neuves qui tombent à terre. On voit qu'ils ont pris la take un paquet de fois. Voyons!
Puis on parle avec
là. Ben non, écoute, il écrase tellement qu'il y en a plein qui revolent à terre, sont toutes neuves. Tu sais, comme, un paquet de cigarettes, ils ont gaspillé un paquet de cigarettes complet. Anyway, le budget est tout passé dans le paquet
de clopes.
Une autre take, on peut le finir, là, tu sais.
Il te reste combien de clopes, là?
Écoute, il en reste 2. Ben, t'es capable 3 secondes. la réalisation, que dire, hein? Ben, rien.
J'ai rien à dire
là-dessus. Effets spéciaux, du sang, coup de hache en pleine gueule, c'est cool. On va leur donner du crédit parce que le bout, tout ce qu'un coup d'âge d'en face dans le crâne d'une jeune victime, ben, elle tient tout seul. Tu sais, elle tient les airs. Ben, félicitations. Sinon, il y a un morceau de vide dans l'œil. Crédit encore parce qu'il tient aussi tout seul. T'sais, on dit qu'on a mis de la pâte à modeler puis que ça tient avec un petit peu de blood. Là, t'sais. Sinon, je sais pas si c'est un effet spécial. Donc, les nipples de Catherine, la fille que je pensais qui était une porn star, genre, elle qui est la péripatéticienne du film. Là.
La péripatéticienne,
à savoir si c'est un effet spécial, parce qu'elle a vraiment des weird nipples, des longs, là. Donc, non, mais dans le sens, ça prendrait une trayeuse à vache, là.
Mais là!
Je t'ai dit, où
il faut pas juger une femme par ses nipples,
Olivier. Non, c'est assez... écoute, ça pourrait être des door stoppers, Simon. Là.
Oh my God!
OK?
Oh, pourquoi tu mets cette image-là dans la tête? la fille qui est couchée à terre sur le côté.
Elle est payée à ça, à l'heure.
Un jour, Olivier, on va être assez riche pour avoir des door stoppers humains.
Des door stoppers humains.
Ils font payer des filles pour se coucher à terre.
L'histoire rappelle un peu l'excellent Dead and Buried de Gary Sherman 80 que tu as vu récemment, que tu as beaucoup aimé.
J'ai vraiment aimé
c'est
ça.
Très bon ce film-là. Mais avec beaucoup moins de tout, on s'entend. Donc, surtout aucune structure ou mise en scène. Le film est il est complètement dépourvu de ça, de tout. Donc, voyons, ne vous étonnez pas si, en visionnant cette tragédie-là, parce que c'est ça, l'envie de regarder le plafond vous pogne, ou les craques dans vos murs, ou la poussière sur votre comptoir. Le film, comme je t'avais décrit, donne, OK, que vous le veuillez ou non, un déficit d'attention instantané. Je vous dare, OK, vraiment, que ce soit de rester assis et visionner cette atrocité-là, OK, sans mettre une pause, OK, au moins une vingtaine de fois. Moi, c'est ce qui s'est passé avec
c'est
moi.
C'est combien de temps, ce film-là?
Il dure 1h15.
Oh boy. OK?
T'as l'impression d'être là pendant 3 heures, OK? C'est prenez vos pauses pour faire une excuse, pour faire n'importe quoi d'autre. Je te le dis, c'est une des pires merdes, pas juste parce que c'est mauvais, parce que c'est n'importe quoi. Donc, pour des zombies qui sortent du lot, OK, qui sont pas des vrais zombies, mais qui sont des zombies parce qu'ils sont congelés, c'est ça l'originalité du film, genre. Frozen Scream, Chris. Il y a personne qui crie dans le film ou quand ça... Non, même pas. Personne qui crie là-dedans. Ça n'a pas rapport, OK?
Ben, il y a pas le gars qui se fait tuer, là, par la seringue.
Ouais, mais comme ils ont tout le temps... Il y a un prêtre aussi, puis il crie tout, qui se fait étrangler, puis ça crie vraiment comme des femmes. C'est drôle, mais le Frozen Scream...
Il n'y arrive jamais.
Écoute, restez, OK, avec The Serpent and the Rainbow, OK, pour sortir du lot, qui est très bon, genre 88.
Dont on va reparler la semaine prochaine, d'ailleurs.
Wes Craven, OK. Oui, hey, oui, c'est vrai.
On le présentera après.
Dead and Buried, donc j'ai mentionné. Dead Dream, en 72, de Bob Clark. Children Shouldn't Play With Dead Things, 72. Ou l'excellent Shockwaves que tu as parlé là, il y a pas longtemps, qui sont des zombies, mais c'est plus ça que je veux dire. Des films de zombies qui en sont pas, mais au moins que vous allez avoir du fun. Même si c'est du cheese, exemple, dans le Shockwaves, ça reste un très bon film d'horreur.
Il est divertissant.
Tu sais, ouais. C'est divertissant. Tandis que, je vous le dis, Frozen Scream, je vous dare d'écouter ça jusqu'au bout sans vous lever une fois. Et sans pas... où c'est que je t'ai rendu? Je vous le dis, OK? À ne pas recommander, OK? Vraiment, un des pires films que j'ai vu de toute ma vie.
Wow! Ouais. OK. Ben, merci, Olivier. Ça va nous
fait
éviter
plaisir.
De tomber dans le panneau. d'ailleurs... si vous voulez relever le défi, ben évidemment, il est partagé sur le blog au www.lesoubliettes.ca. Essayez en gang, au pire, des fois à plusieurs, c'est plus facile.
Ouais, essayez.
Tu peux jaser par-dessus ouais. d'autres choses. Et tu mentionnais The Serpent and the Rainbow.
Oui.
Pourquoi on va en reparler la semaine prochaine, Olivier?
Je me demande pourquoi.
C'est parce que là, on a une invitée spéciale la semaine prochaine. Oui. On va recevoir à l'émission. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'avoue que je me souviens plus de qui je pense. Je me souviens plus. Marc-Antoine Guérin, ça se peut-tu?
Qui
nous avait proposé ça. En tout cas, c'est un auditeur.
Oui,
c'est un auditeur qui nous a proposé cet invité. Puis après avoir vérifié, tabarnouche, c'est une maudite bonne
c'est
idée.
C'est vrai, oui.
On va recevoir à l'émission Christian Page, mm-hmm. l'enquêteur du paranormal, qui vient de faire un lancement de livre et vient de lancer son livre « L'enquêteur du paranormal » au cinéma, dans lequel il fait une anthologie, il répertorie plusieurs films inspirés de faits supposément vécus de paranormal, et il en fait sa propre analyse, raconte l'histoire, puis mm-hmm. si tu vrai, si tu pas vrai, puis il fait en fait son enquête. On va le recevoir ici la semaine prochaine. D'ailleurs, on a Benoît Mercier aussi des Mystérieux mm-hmm. Étonnants qui va joindre à nous parce que lui aussi est un très grand fan de Christian. Donc, on va passer une heure à jaser avec Christian de son livre, de cinéma, mais aussi de paranormal. Je pense que ça va être vraiment le fun. J'ai bien, bien hâte de rencontrer Christian.
Oui.
Je pense qu'on aura du plaisir avec mm-hmm. ça. Sur ce, ben, on va prendre une petite pause musicale avant la suite de l'émission. On va aller écouter une chanson tirée du soundtrack de Seteschiale di Setagiala.
Oh.
Je le prononce sûrement pas bien, mais en tout cas, ça donne le ton. On va écouter la chanson, en fait, Poisoned Claw de Manuel de Sica, composée en 1972. Et on vous revient aux oubliettes sur choc.ca. OK, c'est joke. We'll be right back.
Peu fréquentée par les hommes blancs, elle avait mauvaise réputation. Il y courait des légendes à propos d'un lac caché, inconnu du commun des mortels, qui abritait une chose blanchâtre, gigantesque, informe avec des yeux luisants, et les autochtones murmuraient que des démons aux ailes de chauve-souris quittaient vers minuit leur repère souterrain pour aller l'adorer. Ils ajoutaient que la chose était déjà là bien avant d'Iberville et La Salle, avant les Indiens, avant même les bêtes et les oiseaux de la forêt. Elle était à elle seule un cauchemar. La regarder, c'était mourir. Les hommes en rêvaient parfois et en savaient ainsi bien assez pour s'en tenir à l'écart. L'orgie vaudou se déroulait aux marches de cette région arborée, déjà suffisamment dangereuse, et c'est sans doute le lieu où se déroulait la cérémonie, plus encore que les sons troublants qui effrayaient les habitants. Seule la poésie ou la folie aurait pu décrire les bruits que Legras et ses hommes entendirent alors qu'ils avançaient péniblement dans le bourbier noir vers les tam-tams et la lueur rougeâtre. Il existe des voix propres aux hommes et des voix propres aux bêtes, mais il est effroyable d'entendre les unes dans les gorges des autres. La furie bestiale et la licence orgiaque se disputaient la conquête de sommets dans l'horreur par des hurlements et des extases rauques qui déchiraient la nuit et se réverbéraient dans les bois comme une tempête pestilentielle venue des abîmes de l'enfer. De temps à autre, les ululements désorganisés s'arrêtaient et de ce qui semblait une chorale bien entraînée de voix éraillées s'élevait en incantation l'abominable rituel.
Oh oui, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, hein?
Intriguant. Il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont reconnu, malgré que c'est pas par les incantations voodoo qu'on a entendu qu'on peut le reconnaître, parce que malheureusement, cet extrait de livre audio était très mal traduit.
Oui.
On va l'admettre. N'empêche, je trouvais cette partie de texte intéressante pour mettre la table sur le sujet dont je vais vous introduire aujourd'hui. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de le texte « L'appel de Cthulhu » de H.P. Lovecraft.
Ouais.
Tout le monde connaît H.P. Lovecraft. J'avais le goût de me saucer dans le sujet, même si je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste et que, comme j'ai dit précédemment, tout en même si je me suis ressaucé dans le sujet au courant de la semaine, j'ai refait des lectures. Au final, je me suis pas tant, j'ai pas tant fait de recherche. Là. J'avais juste envie de me ressourcer dans l'art d'H.P. Lovecraft. Parce que là, dans deux semaines, bon, là, on vous l'a dit, la semaine prochaine, on reçoit Christian Page, mais dans deux semaines, moi et Olivier, on va chacun notre tour vous présenter, faire la critique d'une adaptation d'une nouvelle de H.P. Lovecraft.
Oui.
Puis je trouvais que H.P. Lovecraft méritait une certaine introduction.
Mm-hmm.
Parce que tout le monde semble dire qu'il connaît H.P. Lovecraft, ou à peu près, mais très peu l'ont lu au final. Ben, très peu. Pas très peu, mais pas tout le monde l'a lu. Donc, souvent, c'est juste, ah oui, c'est les tentacules, ça.
Ouais.
C'est plus que ça. H.P. Lovecraft, c'est un des auteurs les plus importants de l'horreur, de l'histoire d'horreur, de la littérature d'horreur, qui aura eu un impact sur les histoires d'horreur de partout dans le monde. Et ce, à jamais. Là, comme je dis, je vais seulement faire une certaine introduction dans le sujet parce que c'est quand même un sujet lourd qui mérite de très, très grandes analyses. Et si vous voulez en savoir plus après cette émission ou la prochaine, je vous invite fortement de découvrir l'émission de podcast ici sur lesondesdechoc.ca, le 7e antiquaire, et aussi Pop en stock, qui avait fait en 2014 toute une série d'épisodes d'analyses sur le sujet de H.P. Lovecraft. que ce soit au cinéma, dans sa littérature ou ailleurs, parce que, comme je dis, H.P. Lovecraft aura eu un impact partout.
Oui.
Qu'on s'en rende compte ou non. Donc, mais on va commencer par la base, hein. Qui est H.P. Lovecraft? H.P. Lovecraft, donc, un auteur américain qui est né le 20 août 1890 dans le Rhode Island, à Providence, dans le Rhode Island aux États-Unis, et il sera décédé le 15 mars 1937. Donc, c'est un auteur prolifique, mais méconnu à son époque.
Oui.
Dès son très jeune âge, il aura goûté à la folie. Son père étant devenu fou, probablement à cause de la syphilis. Il aurait perdu la tête et sera finalement décédé. Il a vécu sa jeunesse avec sa mère, qui ne lui donnait pas vraiment d'amour. Il n'y avait pas vraiment de rapprochement très important entre lui et sa mère. Puis ça, c'est sûr que ça l'a affecté dans sa littérature. Toute sa vie, il y aura une espèce de froid avec une incompréhension de la femme et aussi un froid avec la sexualité. Il y aura eu toujours un inconfort par rapport à la sexualité. Ça se ressent beaucoup. L'homme prend beaucoup de place dans la littérature d'H.P. Lovecraft et la femme est très accessoire. Je dis ça, bien sûr. Moi, c'est ce que je trouve. Hein. Moi, tout ce que je vais dire aujourd'hui, je précise, là, c'est mon opinion.
Ça veut... pas
ben, je veux pas... C'est pas... Non, non, mais je dis pas que
non,
ou mal.
Non,
H.P. Lovecraft avait des mauvais côtés, oui. On va en parler, là. Avait des problèmes. Puis, bon, mais c'est juste que, bon, ça se peut que quelqu'un soit pas nécessairement d'accord avec ce que je vais dire. C'est pour ça que je précise, hein, je suis pas un spécialiste. Non, c'est seulement mon opinion sur H.P. Lovecraft.
C'est ton opinion.
Là. Mais au final, oui, il n'y aura jamais eu vraiment de rapprochement avec sa mère, ce qui explique probablement aussi pourquoi il y aura toujours eu une espèce de mur entre lui et la gente féminine. Il y aura toujours eu de la misère avec ça. Éventuellement, ben, il aura rencontré sa femme, qui croyait beaucoup en lui. Ils ont déménagé depuis Providence. Ils ont quitté pour New York. Elle avait beaucoup d'argent, donc elle l'a proposé de l'aider. Oh, je vais y revenir. Il travaillait pas vraiment dans la vie, lui. Je vais y revenir, là. Je fais juste comme un bref résumé de sa vie. Donc, ils ont déménagé ensemble à New York. Elle a proposé de l'aider financièrement parce qu'elle voulait l'aider à éclore son talent d'auteur. Puis qu'à New York, il y aurait beaucoup plus de contacts, ce serait plus facile.
Oui.
Sauf que, bon, on va se le dire, H.P. Lovecraft, c'est un gars très, très, très renfermé. C'est un gars qui est très réclus, grand manque de confiance. Donc, il créait pas nécessairement beaucoup, beaucoup de grands contacts de personnes en face à face. Donc, ça n'a pas vraiment fonctionné. Éventuellement, leur couple se sera séparé. Elle décida de le quitter. Lui, il retourna à Providence, continuait d'écrire. Et finalement, éventuellement, ben, il sera mort le 15 mars 1937. Et tout ça sans être vraiment reconnu pour son talent de son vivant. On va reculer un peu dans le temps. Il a commencé, dès son jeune âge, son père lui lisait du Edgar Allan Poe, okay, avant de se coucher. Donc, dès son très jeune âge, on lui lisait des histoires d'horreur. Son incursion dans le genre a été tout jeune. Ça a commencé depuis 6-7 ans. Là. Déjà, à 8 ans, on lisait du Edgar Allan Poe. Éventuellement, ben, c'est devenu son auteur fétiche. Lui-même dit que Edgar Allan Poe, tu sais, bon, au sens figuré, mais que, oui, Edgar Allan Poe est son grand-père,
okay,
finalement,
oui,
que c'est sa plus grande inspiration. Au final, il y a quand même des kilomètres entre Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft. Mm-hmm. N'empêche, c'est une de ses inspirations primaires. Il a commencé à envoyer des textes à pour des petits magazines, des journaux, puis finalement, c'est surtout Weird Tales, le magazine Pulp Weird Tales, qui a commencé à diffuser ses textes, et il a pas diffusé grand-chose ailleurs qu'avec Weird Tales. C'est arrivé à l'occasion, mais c'est surtout auprès de Weird Tales qu'il aura publié ses textes. Tout d'abord parce que, comme je dis, il manquait beaucoup de confiance en lui, donc s'il faisait face à un refus d'une maison d'édition, mais il retournait pas le texte. Ce qui fait qu'il y a des textes très importants de la littérature, des travaux de H.P. Lovecraft,
oui,
qui verront jamais le jour.
Mm-hmm.
Par exemple, The Case of Charles Dexter Ward, qui est une œuvre extraordinaire que j'adore cette histoire-là. Pourtant, quand il l'a écrit, il l'a jamais mis au propre, il l'a mis dans son tiroir, puis il a dit « Oh, non, je pense que ça intéresse personne. » Puis c'est pourtant une œuvre écœurante. Il doit y avoir
plein
débile.
De petites œuvres d'art cachées comme ça. Là.
Ouais, c'est ça qui arrive. Ben là, évidemment, là, Weird Tale, hein, ça paye pas très cher. Hein, si on parle de 100, 150 $ pour un texte, c'est pas beaucoup quand c'est, tu fais un texte par mois ou deux. Mm-hmm. Là, c'est pas beaucoup. Lui, il vivait avec pas grand chose. Quand il était à New York, c'était dans un très, très petit appartement. Quand il était à Providence, bon, c'était dans une plus belle demeure qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Donc, cherchez-la pas. Là, tu peux pas la retrouver. Elle a été détruite depuis. Mais au final, il n'a jamais été très, très riche. Il voulait seulement vivre de son talent littéraire. Il ne voulait pas vraiment travailler. Il n'avait aucune compétence pour travailler non plus dans des métiers normaux. Normal, on s'entend, mm-hmm. Le normal, mais il a essayé à quelques reprises, puis ça, il n'a pas vraiment réussi. Donc, au final, il se concentrait vraiment sur sa littérature. Mais là, éventuellement, bon, il créa des contacts avec d'autres auteurs par la poste. Et c'est certains de ces auteurs-là, dont j'ai pas les noms ici, donc j'ai tellement pas de mémoire pour les noms. Vous pouvez faire vos recherches vous-même. Mais ces auteurs-là, éventuellement, ont aussi agrandi le mythe, continué le mythe de Cthulhu, de les légendes de la littérature.
Oui.
Parce que lui, il motivait, il permettait ça. Il aimait vraiment que d'autres auteurs continuent à grandir sa mythologie.
C'est ça, son univers.
Son univers, son monde, utiliser les codes puis mm-hmm. continuer de le faire grandir. Ça l'intéressait beaucoup. Mais au final, c'est des petits trucs qui sont intéressants dans sa littérature. C'est un être... ce qui est intéressant dans sa littérature d'horreur, c'est que c'était toujours des horreurs cosmique, là. C'est plus grand que nature. Mm-hmm. C'est les grands anciens qui sont venus avant l'être humain, avant tout. Là. C'est venu depuis le début du monde. Puis on se rend vite compte à travers sa littérature à quel point qu'il n'y avait aucun amour pour l'homme, aucun respect pour lui-même. Ça paraissait dans ses textes à quel point l'homme n'était rien. L'homme est un insecte pour ces créatures immondes et majestueuses et gigantesques d'un temps révolu. Puis au final, il y a des points intéressants à remarquer. Puis là, je vais juste le mentionner parce que ça va ressortir dans nos analyses, nos critiques éventuellement. Mm-hmm. Donc, l'absence de femmes, sinon qu'elle n'est que objet qui. C'est jamais la femme qui fait avancer l'histoire. Là. Tu me diras, c'est l'époque aussi. Mm-hmm. N'empêche, il y a l'absence de sexualité ou qui est présente. Il y a une sexualité présente dans Lovecraft.
Dans les monstres, les créatures. Hein?
Ouais.
On s'entend à Cronenberg, là, hyper gros, moi, je trouve, inspiré par Lovecraft. Tu parles de sexualité qui monte pas, mais comme juste les bébites là, que j'appelle. Là.
Il y avait un dégoût face à la sexualité, une incompréhension puis un dégoût face au sexe. D'ailleurs, sa femme a déjà mentionné, je ne sais pas, là, mais j'ai déjà lu ça. Sa femme déjà mentionnait que pour avoir du sexe, il fallait qu'elle le demande.
Oh.
Parce que lui, faisait pas les premiers pas. Là.
Ok.
C'est vraiment étrange. Aussi, son racisme. Il était très, très, très raciste. Pourquoi on peut lire dans ses textes, d'ailleurs, entre autres dans L'Appel de Cthulhu, où on peut lire souvent les négros.
Ok.
Les négroïdes, où il va parler justement des autres races comme des barbares ou des... C'était des bouses un peu.
Okay.
Il parle un peu de certaines autres races avec un certain dégoût. Comme, c'est vraiment un gros raciste. Ça paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup à quel point c'est des... À l'occasion des fainéants, sinon des incultes. C'est comme de la vermine. Mais finalement, à travers les années, vers la fin, on dirait qu'il a comme allumé. On dirait que subtilement, il a comme allumé qu'il avait peut-être tort là-dedans, puis il a commencé à se reprendre. Donc, vers la fin de sa carrière dans ses textes, il y a comme une autre vibe qui prend d'assaut un petit peu. Puis là, ça change un peu. Son point de vue change sur les autres races. Mais au final, il est quand même très, très, très antisémite, quoique juif lui-même.
Mm-hmm.
Ça n'a jamais été prouvé, mais il vient d'une descendance juive. Mais bon... Tout ça pour dire, c'était juste une base pour savoir qui est H.P. Lovecraft. Là. Au final, ce qu'il a créé, c'est toute une mythologie plus grande que nature. D'ailleurs, le livre, par ailleurs, le Necronomicon.
Oui.
Hein, le Necronomicon, c'est une... Il y a encore des gens qui se disent ça existe-tu, ça existe pas. Ça existe pas. C'est une invention pure et simple de H.P. Lovecraft. Lui-même recevait des lettres pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Non, le Necronomicon n'existe pas. C'est simplement un livre qui est mentionné à quelques reprises dans sa littérature. Mm-hmm. Des personnages comme Yog-Sothoth, Chub-Niggurath, Nyarlathotep, Azathoth ou le très célèbre Cthulhu, qu'on prononce un peu, c'est pour ça que je disais le très aqueux, oui, Olivier, précédemment. Oui. C'est toujours très marin, hein? C'est un univers très sous-marin.
Oui. Oui.
Souvent, ces noms-là, je vais y revenir, mais en fait, je vais commencer par Cthulhu, qui doit être prononcé comme très aqueux. C'est comme un crachat, Cthulhu. Cthulhu, Cthulhu. T'sais, on a tendance en anglais, d'ailleurs, à prononcer Cthulhu. Cthulhu.
Oui.
Comme en trois syllabes, Cthulhu, mais en fait, ça devrait être deux, selon lui, c'est Cthulhu. C'est comme garroché un peu comme un crachat, puis ça doit être très mouillé comme son. Mais selon lui, ces mots-là, comme des noms comme Chub-Niggurath, ben au final, c'est supposé être des mots ou des noms qui sont imprononçables en langue humaine. Mm-hmm. Donc, à vrai dire, il n'y a personne... Il n'y a aucun humain qui serait capable de prononcer ces noms-là comme ils devraient être prononcés.
Oui.
Donc, mais c'est tous des personnages extraordinaires que si vous ne connaissez pas, je vous invite bien sûr à découvrir sa littérature, qui est très large, mais c'est toujours des petites nouvelles, comme c'était souvent pour le pulp, pour des petits magazines pulp. C'est vraiment très, très, très intéressant à découvrir Lovecraft. Mais tout ça amène... Mais Cthulhu, tu sais, c'est toujours des divinités qui vivent sous l'eau, dans un monde sous-marin, dans une grotte. Des divinités qui sont en fait endormies depuis des millénaires et qui n'attendent que le bon moment où les étoiles vont s'aligner pour que l'homme, par accident ou volontairement, le ramène à la vie et qu'ils reprennent le grand contrôle de la Terre. Mais dans le fond, c'est plus que ça. C'est l'univers cosmique. C'est beaucoup plus que la Terre. Là. La Terre n'est qu'une roche dans cet univers monstrueux. J'aimerais beaucoup passer des heures à décrire c'est quoi ces créatures-là, la mythologie, son histoire, mais ça nous prendrait 28 émissions.
Oui.
Ce serait trop gros, trop large, puis au final, on serait pas capable de décrire les créatures, et voici pourquoi. C'est pourquoi je voulais présenter le sujet, c'est parce que il y a une difficulté à adapter H.P. Lovecraft au cinéma.
Oui.
C'est quelque chose de très difficile parce que dans la littérature de Lovecraft, ce qui est important, c'est que c'est toujours décrit comme de l'indescriptible, l'innommable, tellement effrayant qu'on ne peut pas le décrire avec des mots.
Ben oui, tu viens de me... L'innommable
est d'ailleurs un film.
Mais
c'est toujours ça dans la littérature de Lovecraft. Il va faire de quelques descriptions, tu sais, il va parler de tentacules, il va parler de tenter de parler de couleurs, de formes, mais même dans son univers Lovecraftien, hein, l'expression Lovecraftien, il y a même des formes géométriques impossibles. Ils vont décrire des portes ou des lieux ou des coins, des grottes, des mondes où les formes géométriques sont inconnues de l'homme. Comment on peut imaginer une autre forme que toute celle... Imaginez-vous des formes géométriques. Maintenant, essayez de vous en inventer une qui n'existe pas. Comment tu veux décrire ça? Tu ne peux pas. D'ailleurs, je vais donner un exemple de Color Out of Space, une de ces nouvelles qui est très populaire, où c'est l'histoire d'une météorite qui tombe sur une ferme. Et soudainement, au départ, la météorite commence à faire verdoyer le jardin. Là. Tout grossit. Ça fait des tomates géantes, tout grossit. Mais, tout a un mauvais goût. Finalement, ça commence à être... On dirait que tous les légumes et les plantes sont empoisonnés. Et finalement, les gens commencent à se transformer, devenant presque des zombies meurtriers. Ce qui est intéressant avec The Color Out of Space, c'est que la météorite émane une couleur inconnue de l'homme. Donc, une couleur impossible à décrire. Parce que comment tu fais pour inventer une couleur?
Une couleur, c'est vrai.
Ça, je vais y revenir. Mais comment tu fais pour inventer une couleur? C'est impossible. Quelques-uns des l'innommable, justement, ces monstres n'ont jamais été décrits comme tels. Donc, c'est très difficile de pouvoir mettre ça sur papier si c'est quelque chose de tellement immonde, tellement grotesque, tellement monstrueux et inconnu de l'homme que de le voir ou même tenter de le comprendre nous rendrait complètement fous et finalement nous tuerait par simple incompréhension de ce qui se déroule devant nos yeux. C'était ça la grandeur de l'horreur de Lovecraft et de sa mythologie, c'est que de tenter de comprendre tout ce monde, cet univers monstrueux-là qui était là avant l'homme, nous rend complètement fous, nous font perdre la tête. C'est souvent comme ça que ça se termine. On raconte une histoire par un témoin, finalement, un survivant, et qui on raconte que les gens sont juste devenus complètement fous. Un des plus grands adaptateurs de Lovecraft au cinéma, hein, certains, vous le savez déjà, c'est Stuart Gordon, hein, qui nous a répondu... Je voulais prendre une pause musicale, mais je me rends compte qu'on n'a tellement pas assez de temps pour parler de Lovecraft que le temps passe très rapidement. On va se plonger dessus dans le sujet. Oui. Stuart Gordon qui a réalisé, je pense, jusqu'à 6 ou 7 histoires inspirées ou adaptées de contes de H.P. Lovecraft, notamment le célèbre Reanimator, Réanimateur. Aussi, Réanimateur qui est arrivé en... C'est en quelle année? 85.
Oui, 85.
85, qui nous vient de la nouvelle d'H.P. Lovecraft, Herbert West Reanimator.
Oui.
Aussi, il a réalisé From Beyond en 86. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je passe vite, là.
Dagon. Ça, c'était-tu
Brian Yuzna? Dagon, ça, c'était 2000...
Mettons pas, c'est parce qu'ils ont collaboré souvent ensemble.
Non, c'est Stuart. Oui, mais il a collaboré, mais c'est Stuart Gordon qui a réalisé le film. Il a réalisé aussi Castle Freak en 95.
Oui!
Qui est pas très bon.
Je sais...
Et ça, c'est la vieille de la nouvelle Outsider, The Outsider. Mais on va revenir un peu en arrière. Mais Stuart Gordon, d'ailleurs, il y a quelques années, avait, je pense que c'est ça. Je pense que c'était justement en 2014. Non, c'est pas vrai, c'était en 2010. Il avait été invité à Fantasia, puis il avait fait justement une conférence sur la difficulté d'adapter H.P. Lovecraft au cinéma. Okay. Malheureusement, j'ai dû le manquer. Ça a été une grande tristesse, mais ça devait être tellement intéressant. D'autres qui ont adapté H.P. Lovecraft au cinéma, John Carpenter.
Oui.
Mais attention, il n'a pas adapté H.P. Lovecraft, il se l'est approprié. C'est très différent. Là, on parle de films comme The Fog, Prince of Darkness, The Thing, et le majestueux In the Mouth of Madness. En français, L'Antre de la Folie. Là, hein, c'est dans le fond, il a pris un peu la mythologie, les histoires d'H.P. Lovecraft. Il se l'est approprié, il se l'est modelé comme une sculpture et il a fait ses propres créations. Mais c'est quatre films très, très, très Lovecraftiens.
Oui.
Toute la brume, ça vient de certains contes de Lovecraft.
La brume...
The Fog.
Ah, oui,
le concept de brume.
Il sort de l'eau.
C'est dans un village de pêcheurs, ça. C'est toujours des villages de pêcheurs avec
toujours.
Lovecraft ou presque. La brume, c'est très présent. C'est Yog-Sothoth, la divinité Yog-Sothoth, qui est en fait un peu le gardien de la porte des dimensions. Yog-Sothoth, qui représente un peu le Satan, même s'il n'est pas le. C'est une sens figuré, le Satan, mais c'est un peu un gardien qui peut prendre toutes sortes de formes. Et d'ailleurs, dans une de ses nouvelles, il va prendre la forme d'un grand nuage noir au-dessus de la ville. Dans d'autres, un simple homme sans visage. Ou, tu sais, bon, c'est Yog-Sothoth. Ça c'est pour The Fog, The Thing. Hey, il n'y a pas plus Lovecraftien que la créature de The Thing. Comment tu veux faire une créature indescriptible? Une créature qui prend forme, qui vole l'identité, puis qui prend la forme qu'il veut, c'est The Thing.
Prends tes organes, puis on va modeler quelque chose venant de là.
Une monstruosité. Voilà. Comment tu veux découvrir... Tu peux pas décrire The Thing.
Et le bébé de The Thing, c'est impossible.
Impossible. Sinon, on a tellement pas... Mais c'est pas grave, dans deux semaines, on va faire toute une émission là-dessus.
Ouais.
Je reviendrai sur John Carpenter, parce que ça vaut vraiment la peine. Mais In the Mouth of Madness, au final, je pense qu'on peut considérer que c'est l'ultime film Lovecraftien, selon moi, c'est le meilleur film Lovecraftien, même si c'est pas une adaptation.
C'est ça, c'est pas une adaptation, puis écoute, on en parlait tout à l'heure, moi puis Simon, puis on a vu ça, on était adolescent quand même, puis moi j'ai eu peur quand j'ai écouté ce film-là. Je m'attendais pas à ça du tout, puis ça m'a laissé avec un feeling mélancolique, c'est assez spécial comme histoire. Là.
Tout à fait, c'est vraiment, vraiment particulier. Et malheureusement, il ne reste plus de temps. Je voulais juste faire une brève incursion dans l'univers. Je vais quand même prendre une minute pour traverser quelques films inspirés ou adaptés de H.P. Lovecraft.
Oui.
Le premier aura été The Haunted Palace en 1963, inspiré de The Case of Charles Dexter Ward. On a aussi Monster Die en 65, qui est inspiré de The Color Out of Space. Celui-là en couleur. Les autres films inspirés de Color Out of Space, pour contrer le fait que c'est une couleur inconnue, souvent c'était des films qui étaient réalisés en noir et blanc. Dans ce cas-ci, il est en couleur, mais on choisit de faire du vert fluo.
OK.
Mais Die Monster Die est le film que je vous ai partagé pour une première incursion dans l'univers de H.P. Lovecraft au cinéma, parce que c'est un bijou de 1965 qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Sinon, quoi, des films comme Curse of the Crimson Altar en 68, The Dunwich Horror en 70,
oui.
Le Continent
Hammer,
des Hommes Poissons, Hammer. Le Continent des Hommes Poissons est très Lovecraftien.
Ouais.
The House by the Cemetery, c'est Lovecraftien.
Oui.
The Curse en 87 mm-hmm. avec Bill Wheaton qui est inspiré de Color Out of Space
oui.
aussi. The Unnameable, Cthulhu Mansion qui est horrible. Pour le reste, on va y revenir.
Oui.
Moi, je pense qu'on va vraiment prendre le temps la
oui.
semaine prochaine de parler des adaptations plus en plus
dans
pointues.
Dans deux semaines.
Dans deux semaines, on va revenir sur les adaptations beaucoup plus pointues du grand auteur. Sur ce, comme je vous dis, tout ça n'était qu'une introduction. On s'y replonge dans deux semaines. D'ici là, je vous invite à faire profiter de ces deux semaines-là, faire un brin de lecture de H.P. Lovecraft. Regardez ses recueils, ça se trouve, vous pouvez même trouver des livres audio sur YouTube. Prenez le temps de vous plonger dans le sujet et ensuite, dans deux semaines, on pourra parler de ses adaptations plus en détail. Sur ce, merci Olivier.
Ben, merci Simon.
On se revoit la semaine prochaine en compagnie de Christian Page et Benoît Mercier.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. À la semaine prochaine. On se laisse sur la chanson son thème de Reanimator de Stuart
yes.
Gordon
oui.
Composé par Charles Band qui oui. est en fait un rip-off de Psycho
oui.
vous allez reconnaître merci beaucoup à la semaine prochaine.